Le mouvement européen Pas-de-Calais organise tout un tas de rencontres autour de thématiques européennes. En novembre dernier, cette association organisait les défis européens. Dans ce cadre, était organisé un voyage à Bruxelles, des conférences à la Commission européenne et une visite du Parlement européen. On était avec le groupe qui participait à ce voyage et on va écouter les différentes interviews et témoignages récoltés tout au long de cette journée enrichissante. On commence par une présentation du projet avec François Avier, qui préside l'association Le Mouvement Européen Pas-de-Calais et que vous entendez aussi régulièrement sur Radio PFM, puisqu'il y est chroniqueur.
Cette journée était primitivement destinée principalement à des étudiants en deuxième année de master banque finance. Donc c'est une journée sur l'euro et la zone euro. Il se trouve que les événements de Paris font que les étudiants ne sont pas avec nous, mais ils seront avec nous la deuxième journée qui, elle, se situera à Arras.
Alors c'est un sujet quand même assez technique. Le but, c'est que tout à chacun puisse s'emparer de ces questions.
Oui, alors ça paraît a priori très technique, mais en fait, vous avez bien vu qu'il y en avait plein la télé, plein la radio tout au long de l'année. La zone euro, ça nous concerne directement. Hein. C'était la crise grecque, c'est aussi les questions d'inflation, c'est le niveau de l'euro qui favorise ou non les exportations françaises, c'est le rôle de la BCE, c'est beaucoup de choses qui concernent directement les Français.
Un petit mot sur les intervenants qu'on pourra écouter aujourd'hui tout au long de la journée.
Alors ce matin, nous avons un exposé d'un expert de la BCE qui va nous parler de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Vous savez que depuis le début de la crise, il y a une adaptation très forte de la BCE, avec l'accord d'ailleurs de la banque qui est la plus rigoureuse, hein, la plus stricte sur le mandat de la BCE. Mais la Banque Centrale Européenne a son rôle d'institut d'émission, gère la monnaie et maintenant fait beaucoup plus que ça, puisque c'est elle qui est à l'origine de la baisse de l'euro pour favoriser nos économies. C'est elle qui aide aussi les États à travers des politiques dites non conventionnelles, c'est-à-dire l'achat sur le marché secondaire des créances des États qui ont du mal à se financer. Donc la BCE a beaucoup aidé, en particulier la Grèce. Après la BCE, nous aurons un expert de la Commission européenne qui nous parlera donc de la zone économique et monétaire, puisque une des priorités de la Commission Juncker, c'est le renforcement de cette zone économique et monétaire, avec l'élargissement de ses compétences, avec une amélioration de sa gouvernance.
François Avier, président de l'association Le Mouvement Européen Pas-de-Calais, interviewé dans le bus qui nous menait à Bruxelles. Bruxelles où le groupe de visiteurs a donc pu avoir droit en matinée à deux conférences. On écoute d'abord Peter Ehrlich, responsable pour la communication de la Banque Centrale Européenne.
Le rôle de la BCE, c'est provisionner les banques avec la liquidité. Nous sommes le gardien de la stabilité des prix. C'est notre premier rôle. Et aussi, nous sommes responsables pour la stabilité des marchés financiers avec les États membres.
C'est une institution qui est indépendante?
Oui, nous sommes indépendantes de la politique. Ça veut dire que nous sommes responsables de nous expliquer vers le Parlement européen, mais notre démocratie, c'est le Conseil des gouverneurs. Là, tous les pays sont une vote et on a 6 votes de notre directoire, mais nous sommes indépendants de la politique actuelle.
Pourquoi justement cette indépendance et pourquoi c'est si important?
Les politiques monétaires doivent être indépendantes, c'est dans le cas aussi dans les autres grands pays comme les États-Unis, pas influencer des intérêts politiques court terme.
Dans votre présentation, vous avez parlé de nécessaires réformes des économies, de limitation des dépenses publiques. Est-ce que la BCE, c'est aussi un outil de libéralisation des économies?
Je ne sais pas si libéralisation, c'est le mot correct. Pour nous, c'est important que la productivité augmente parce que seulement avec plus de la productivité, on peut créer de nouveaux emplois. Et pour ça, nous sommes en faveur de certaines réformes structurelles, mais c'est pour créer de nouveaux emplois, de nouvelles activités dans l'économie.
Alexis Yamajako, chargé de communication à la Direction générale aux affaires économiques et monétaires.
De la Commission européenne. Alors, quel est le rôle de la Commission européenne en termes d'économie ?
Mais le rôle de la Commission européenne en général, c'est qu'elle est gardienne des traités. Donc, elle veille à ce que les décisions prises par l'Union européenne soient mises en œuvre dans les conditions définies par les traités. Donc en matière économique, c'est aussi cela. Nous avons un pacte de stabilité dans le domaine économique. La Commission veille à ce que les règlements pris dans ce cadre-là soient mis en œuvre conformément aux décisions de nos chefs d'État et de gouvernement, du Parlement et du Conseil.
Certains citoyens pensent que la Commission, enfin, les institutions européennes de manière générale, servent un peu d'outils de libéralisation des économies. Alors comment vous voyez ça?
Je ne dirais pas que la Commission est un outil de libéralisation. Je dirais que la Commission est l'exécutif qui met en œuvre les décisions prises par les Européens, puisqu'ils élisent leurs députés. Donc ce sont des décisions démocratiques prises par les Européens qui sont mises en œuvre par la Commission. Donc si nos citoyens soutiennent ou élisent des députés qui proposent des mesures plus libérales en matière d'économie, eh bien la Commission veillera à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans ce cadre-là. Donc il faut toujours rappeler que nous sommes une organisation démocratique et que donc les décisions qui sont prises, les politiques menées, sont la résultante du vote des citoyens.
Un mot, si vous voulez bien, aussi sur la manière dont la Commission fait face à la crise économique européenne, avec des propositions de Jean-Claude Juncker.
Oui, le président Juncker, bien avant son élection à la tête de l'exécutif européen, avait fait des propositions, notamment le plan d'investissement qui se monte à 315 milliards d'euros. C'est un plan dont l'objectif premier est la relance de la croissance pour lutter contre le chômage. Monsieur Juncker répète à longueur de journée « growth and jobs », croissance et emploi. Et donc, je ne considère pas cette mesure, par exemple, comme une mesure d'austérité. Il s'agit de relancer l'économie européenne pour que les citoyens européens puissent trouver du travail. Les autres pistes, c'est le renforcement du pacte de stabilité. Vous avez entendu parler du rapport des cinq présidents. Il s'agit également de promouvoir les réformes structurelles, notamment celles du marché de l'emploi, entre autres. Ça aussi, c'est une façon de libérer l'économie pour la création d'emplois. Enfin, la volonté de renforcer la coopération entre les États membres pour promouvoir ou aussi pour utiliser des mesures qui, dans certains pays, fonctionnent et qui pourraient être reprises par d'autres États membres.
Alexis Yamajako, chargé de communication à la Direction générale des affaires économiques et monétaires de la Commission européenne. Avant ça, on écoutait Peter Ehrlich, responsable de la communication de la BCE, la Banque centrale européenne. On écoute toujours différentes interviews réalisées lors de cette journée à Bruxelles, organisée par le mouvement européen Pas-de-Calais, dans le cadre de cet événement, les défis européens. Alors l'après-midi, le groupe de participants s'est rendu au Parlement européen où on a eu droit à une visite et une présentation très intéressante, il faut le dire. On écoute un petit extrait.
24 cabines d'interprètes. Les interprètes sont bloqués derrière leurs vitres. Ils n'entendent pas le bruit ambiant. Donc il y a 3 interprètes par cabine. Tous les interprètes traduisent dans leur langue maternelle. Chaque interprète sait traduire 5 ou 6 langues. Donc si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que ça ne couvre pas les 24 langues. Donc on a ce qu'on appelle des langues relais, des langues de bascule. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple parce que sinon c'est trop compliqué. Si vous avez un député qui parle letton, mais que personne dans la cabine française ne sait traduire du letton au français, mais qu'il y a quelqu'un qui sait traduire du grec au français. Et que dans la cabine grecque, on sait traduire du letton au français. Oui, oui, oui. À ce moment-là, l'interprète va se basculer sur la langue grecque. Il va écouter la traduction du letton au grec et il va traduire du grec au français. Ça paraît super compliqué, mais en 2 secondes, c'est fait.
La voix de Marie Rameau, qui était notre conférencière au Parlement européen, elle nous explique son rôle.
Alors, mon rôle, c'est d'être le point de contact entre le Parlement européen et les visiteurs, et d'accueillir les visiteurs francophones, donc que ce soit les Français, Belges francophones, Luxembourgeois francophones, au Parlement européen, de leur présenter le Parlement européen, mais je ne suis pas une guide, c'est-à-dire que je réponds aussi à leurs questions et j'essaye de montrer tous les tenants et les aboutissants du processus législatif européen et du Parlement européen.
Ah, c'est une institution que vous connaissez bien parce que vous avez été attaché parlementaire avant, c'est ça, hein ?
C'est ça, pendant 10 ans. J'ai commencé ma carrière en fait. J'ai commencé ma carrière en tant qu'assistante parlementaire pendant 8 ans et demi en fait. J'ai travaillé pour une succession de députés. J'ai fait un petit tour à la Commission européenne pendant 2 ans et demi, mais j'ai préféré revenir au Parlement, travailler pour de nouveau des députés avant d'être conférencière.
L'enjeu de votre rôle, hein, c'est de rapprocher les citoyens d'une institution dont ils sont, il faut le dire, quand même assez éloignés.
C'est ça, c'est exactement ça. Mon objectif personnel, c'est de toucher au moins les citoyens, au moins pour qu'ils participent aux élections européennes, qu'ils votent, qu'ils se rendent compte de l'importance de l'Union européenne et surtout du Parlement européen dans leur processus électoral, dans leur volonté d'exercer leur droit de vote. Mais j'ai aussi envie de leur montrer toutes les choses concrètes qu'a fait l'Union européenne pour améliorer leur vie et leur expliquer éventuellement certaines politiques qui ne comprennent pas ou qui sont un peu trop simplifiées par d'autres médias ou par d'autres gouvernements.
Alors justement, oui, les raisons de l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, bon, il y a d'une part la distance, hein, c'est sûr, et inévitable à l'échelle du continent européen, mais vous parlez aussi du traitement médiatique, du rôle des politiques là-dedans.
Oui, je pense qu'il y a vraiment un faisceau de raisons pour lesquelles le Parlement européen et l'Union européenne sont éloignés des citoyens. Je pense qu'il y a vraiment une responsabilité assez commune. Il y a la responsabilité des institutions européennes en premier lieu qui ne se sont peut-être pas donné les moyens pendant de nombreuses années de communiquer à destination des citoyens pour un peu les sensibiliser et simplifier ce qui se faisait au sein des institutions européennes. Je pense aussi qu'il y a une grosse responsabilité des médias nationaux ne vont pas jusqu'à s'intéresser aux thématiques européennes et qui n'ont pas cette perspective générale européenne mais qui restent très attachés aux médias, enfin à la politique nationale en fait, qui ne voit souvent la politique européenne que par le prisme de la politique nationale, ce qui est toujours un peu réducteur. Je pense aussi qu'il y a aussi une responsabilité des citoyens qui maintenant surtout ont les outils pour se renseigner avec les nouvelles technologies. Ils vont sur Google, ils tapent Parlement européen, ils ont énormément d'outils maintenant, hein, c'est assez récent, mais maintenant ils ont vraiment énormément d'outils pour comprendre ce qui se passe, ce que font les députés pour défendre leurs droits ou en tout cas leur position politique. Et voilà, les députés, à ma connaissance, essayent quand même énormément de communiquer sur leurs activités. Après, il y a toujours ce problème de réussir à faire descendre la politique européenne au national, de prendre contact avec les médias nationaux. Les députés européens travaillent énormément sur des questions techniques et il est vrai, peuvent quelquefois mettre un peu de côté le côté communication en se focalisant vraiment sur des détails techniques. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, en tout cas, qu'il y a vraiment une volonté, il y a une claire volonté des institutions européennes de démocratiser, enfin, plus que démocratiser, d'avoir plus de pédagogie et d'expliquer, ça c'est sûr. Après, il faut aussi que les États membres fassent un pas de leur côté.
Alors cette distance entre le citoyen et l'institution, finalement il y a une distance aussi entre le citoyen et le politique. On voit les gens quand même sont de manière générale méfiantes vis-à-vis du politique. On l'a vu aussi au travers des questions que le groupe ici vous a posées, des questions sur le rôle des lobbies, sur le coût finalement de l'institution.
Oui, tout à fait. Et ce sont des questions qui reviennent à chaque fois. De toute façon, les indemnités des députés, le coût de l'institution et les lobbies. Les lobbies, il y a énormément de méfiance vis-à-vis des lobbies. Ce sont des inquiétudes tout à fait légitimes. Je pense qu'il y a, cet effort de pédagogie à avoir. C'est la même chose quand j'ai montré la vidéo de l'hémicycle, des débats où il n'y avait pas beaucoup de députés et où du coup la première réaction c'est ils sont absentéistes, ils n'en ont rien à faire. Et il y a ce besoin d'expliquer aux citoyens qu'il ne faut pas non plus juste faire un lien tout bête dans l'esprit, mais réfléchir un peu et voir un peu plus loin que ça. Et je comprends tout à fait l'inquiétude des citoyens, et c'est mon travail aussi de leur expliquer. Et après, ils font ce qu'ils veulent de cette information, mais au moins ils ont l'information. Ils n'ont pas des partis pris et ils n'ont pas juste des schémas un peu simplifiés.
Putain, c'est vache, mon bien. Nous sommes quand même tous des Européens.
Marie Rameau, conférencière au Parlement européen. Alors avant de reprendre le bus pour Arras pour clore cette journée à Bruxelles, le groupe de participants encadré par l'asso le Mouvement Européen Pas-de-Calais a eu le temps de prendre un pot dans une des chouettes brasseries bruxelloises, après l'effort un peu de réconfort quand même. On en a profité pour récolter sur place quelques impressions, quelques témoignages.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ?
Je trouvais que c'était très intéressant, ouais, de voir les locaux d'abord, et puis de voir le fonctionnement du Parlement. Ouais.
Bah, écoutez, j'avais déjà visité il y a un an et demi le Parlement. Ma première impression quand j'étais allée la première fois, c'était qu'est-ce que c'est que ce grand machin ? Et c'est une expression que je n'utiliserai plus maintenant, parce que j'y ai trouvé, comment dirais-je, des raisons d'espérer dans ce grand projet qu'est l'Europe.
Ben moi je l'ai trouvée très intéressante, non pas tellement parce qu'on a vu, parce que les bâtiments sont des bâtiments, mais par les débats qui nous ont agités toute la journée au sujet de l'Europe, qui est quand même un petit peu en panne.
Moi j'en sors un petit peu quand même secouée, puisque... J'ai toujours eu un rêve européen depuis le début des années 60, où je me baladais sur les falaises près d'Etretat, de blocos en blocos, avec des étudiants allemands de mon âge. On se disait, oh, nous on n'est pas comme les parents, nous on vit autre chose. Et depuis on continue à vivre autre chose. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de souffler un peu sur mes rêves, et je ne veux pas. Et je veux que ça continue, et que ces rêves des années 60 continuent à prendre corps, et je l'espère de tout mon cœur, pour mes enfants et mes petits-enfants.
Qu'est-ce qui vous a peut-être interpellé ?
C'est le nombre de personnes, ouais. Et puis le nombre de langues parlées au Parlement. C'est incroyable que... Avec 24 langues, comme ça, on arrive à faire fonctionner le système. Et puis tout le travail des parlementaires.
Ce qui m'a interpellé, c'est ce qui m'a réjoui finalement aussi, c'est le grand sérieux du Parlement, des députés, du travail qui est fait. Franchement, ça c'est l'Europe. Et c'est ça qui est un peu rassurant. Mais pas uniquement ce que disent les hommes et femmes politiques en France à propos de Bruxelles. Là, on voit vraiment qu'il y a du travail à Bruxelles.
La plupart des citoyens ont un rapport un peu distant avec les institutions européennes. Comment vous voyez ça, vous ?
C'est vrai qu'elles apparaissent comme étant lointaines, très technocratiques, mais bon, elles sont là. D'après ce que j'ai cru comprendre dans les exposés de la journée, la majorité des citoyens européens sont pour le maintien de leur pays au sein de l'Union. Donc vous voyez, ce sont des affirmations un peu contradictoires.
Ben moi, je venais un peu là pour ça, quoi, pour essayer de me redonner confiance en l'Europe. Et puis voir que des nations qui arrivent à s'entendre, c'est quand même pas courant dans le monde, quoi, surtout quand on voit ce qui se passe actuellement. Hein. Donc j'espère que ça continuera à se développer. Ouais.
Nous avions évoqué l'idée d'une minute européenne sur nos chaînes nationales ou régionales. Et je pense que quand même... De l'information ne devrait pas toujours faire le buzz avec les interviews des gens qui veulent détruire l'Europe, mais peut-être écouter davantage ceux qui travaillent tous les jours à la construire et qui travaillent beaucoup et qu'on n'entend pas beaucoup.
Voilà pour cette série de témoignages, d'interviews récoltées le 18 novembre dernier lors de ce voyage organisé à Bruxelles par le mouvement européen Pas-de-Calais. Cette asso arageoise vous invite régulièrement à échanger, débattre sur les questions européennes, que vous soyez pour la construction d'une autre Europe ou pas. C'est une asso qui est indépendante de tout parti politique, gouvernement ou institution européenne et qui, je cite, s'impose de maintenir dans ses instances et son action un équilibre entre les grandes familles politiques pro-européennes. Pour en savoir plus sur les actions du mouvement européen Pas-de-Calais, un site mouvementeuropéen62.wordpress.com. Et puis à noter que vous retrouvez régulièrement François Vier, qui est président de l'association, au micro de Radio PFM pour les chroniques nouvelles d'Europe.
Tonight, let us pretend or call.